Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. RFI Matin, le journal L'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous.
À la une, les rebelles du M23 qui poursuivent leur progression dans l'est de la République démocratique du Congo.
Ils ont pris une nouvelle localité sur le territoire de Lubero, au nord Kivu, la ville de Kirumba. Et la route semble donc dégager vers le nord et vers la grande ville de Butembo. Sur place, l'inquiétude grandit, vous l'entendrez. À la télévision, face à trois journalistes, le président kényan William Ruto s'est livré à un exercice de l'interview très suivi hier soir. Il est évidemment revenu sur la répression des manifestations qui a fait au moins 30 morts la semaine passée. Les tendances désormais connues en Mauritanie après la présidentielle. Le président sortant donné premier par le site de la commission électorale. L'opposant Biram Dahabeid promet lui qu'il ne reconnaîtra pas les résultats. Des résultats qui restent encore à confirmer. Le Rassemblement National, le parti d'extrême droite qui s'impose comme annoncé en France à l'issue du premier tour des élections législatives anticipées. Quelle réaction sur le continent ? On ira voir ça à Abidjan. Et puis, le premier centre pour sans-abri d'Antananarivo à Madagascar. 148 résidents qui peuvent essayer de se bâtir une nouvelle vie. Une initiative qui n'a pas de prix sur une grande île qui voit la pauvreté exploser. Kanya Bayonga vendredi, Kaya samedi et Kirumba hier. Alors que la RDC vivait le 64e anniversaire de son indépendance, le M23 soutenu par le Rwanda a donc poursuivi sa progression dans l'Est. Nous sommes au nord Kivu et les rebelles sillonnent le territoire de Lubero en direction du nord de la province où se trouve notamment la grande ville de Butembo, carrefour commercial. Alors sur place, malgré les promesses du président Tshisekedi de renforcer les capacités de l'État et de sécuriser la population, promesse tenue encore samedi soir à l'occasion de son discours à la Nation, eh bien sur place, à Butembo, plus les bruits de bottes se rapprochent, plus l'inquiétude grandit, comme nous l'explique Maté Sanané, le président de la coordination urbaine de la société civile.
Ça ne nous rassure pas parce que depuis que le pays est agressé, les forces vives, la société civile, nous avons émis plusieurs propositions, mais cela n'a jamais passé. Ce n'est pas que notre force est incapable de défier l'ennemi, mais seulement le commandement qui semble ne pas être à la hauteur. C'est ce qui nous cause problème. Mais nous saluons le bravoure de nos combattants par décès qui sont soutenus par la population. Et donc, ce discours ne nous rassure à rien. Il y a un problème dans le commandement et nous ne comprenons pas, évidemment, jusque maintenant, pourquoi cette attitude. C'est la question que nous nous posons chaque jour. Parce que des séances, des mémos, des alertes, mais on n'a jamais vu les choses bouger de la manière que nous le souhaiterions.
Maté Sanané, le président de la coordination urbaine de la société civile de Butembo, contacté par Sidi Yansané. Comme un air de grand oral hier au Kenya pour un président Ruto mis sous pression par les manifestations qui ont secoué le pays et la répression surtout qui a fait au moins 30 morts la semaine dernière selon l'ONG Human Rights Watch, 22 selon l'organe officiel de défense des droits humains. Un président Ruto à la télévision pour répondre aux questions de trois journalistes triés sur le volet parmi les médias kenyans. Des questions parfois sans filtre, Alban Tiroir.
Votre Excellence, est-ce que vous avez du sang sur vos mains ? C'est la question qu'un journaliste a adressée au président William Ruto après avoir rappelé le bilan des manifestations, mais aussi les nombreux cas d'enlèvement de militants dénoncés par les organisations de défense des droits humains. Le chef de l'État kényan s'est défendu.
I have no blood on my hands.
Je n'ai pas de sang sur les mains. D'après les chiffres des agences de sécurité, 19 personnes ont perdu la vie. C'est regrettable. En tant que démocratie, cela ne devrait pas arriver dans le pays. Il y a l'équivalent de 17 millions d'euros de dégâts matériels. Le bureau de la présidente de la Cour suprême a été incendié. L'hôtel de ville a été incendié. Le Parlement a été incendié. Chaque vie qui a été perdue doit tous nous déranger. Et cela commence par moi.
La société civile donne un chiffre plus élevé que celui de 19 tués. Des enquêtes seront menées, affirme le président Ruto. Face aux critiques sur l'opulence de son administration, il a promis des restrictions budgétaires, en commençant par la suspension de financement pour des postes très contestés, comme celui de la première dame. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont afflué. Certains déplorent l'accent mis par le chef de l'État sur les pertes matérielles plutôt qu'humaines. D'autres encore soulignent leur manque de confiance dans les propos du président. Les Kenyans ne vous associent plus avec la vérité, a d'ailleurs insister un journaliste face à William Ruto, qui est apparu à plusieurs reprises déstabilisé. Ce week-end, plusieurs militants ont rejeté son appel à un dialogue national. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Les résultats officiels ne sont pas encore proclamés en Mauritanie. Mais le site internet de la commission électorale donne tout de même une idée après le dépouillement et la compilation complète des votes de l'élection présidentielle. Et la commission électorale donne pour l'heure une large avance au président sortant Mohamed Ould Cheikh Razouani. Mais en face, donné second pour sa part, la figure de la société civile, Biram Dahabeid, a déjà affirmé qu'il ne reconnaîtra pas ces résultats. Il parle d'un hold-up électoral. À Nouakchott, on fait le point avec notre envoyée spéciale, Léa-Lisa Vesterhoff.
Sur la base de l'ensemble des bulletins de vote dépouillés, Mohamed Ould Cheikh Razouani détient 56,12% des voix. Voilà ce qu'on peut lire sur la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante, MyCENI. Des résultats provisoires officiels qui doivent encore être proclamés par le président de la CENI dans la journée. En deuxième position, l'opposant et militant des droits de l'homme, Biram Dahabeid, avec un peu plus de 22% des voix. Pour celui qui est déjà arrivé second lors de la dernière présidentielle, ce résultat est faux et manipulé par une commission électorale entre les mains du pouvoir, selon lui. Biram Dahabeid affirme entre autres que dans 700 bureaux de vote, il y aurait eu des cas de bourrage d'urne. Hier, il a appelé ses militants à des manifestations pacifiques pour contester ces résultats. Peu de temps après ses déclarations, le siège du parti de Biram Dahabeid a été encerclé par la police, l'accès à son QG bouclé par deux véhicules des forces de l'ordre et des policiers anti-émeutes. Et dans une conférence de presse tardive, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a affirmé qu'aucune action de nature à perturber la tranquillité des citoyens ne serait tolérée. Léa-Lisa Vesterhoff, Nouakchott, RFI.
L'Afrique du Sud a enfin un nouveau gouvernement et c'est un gouvernement XXL. Plus de 10 jours après l'investiture de Cyril Ramaphosa pour un second mandat, le chef de l'État a en effet dévoilé un gouvernement d'union nationale extrêmement élargi. 75 ministres et ministres adjoints, 9 partis différents y sont représentés. C'est un format inédit pour la démocratie sud-africaine, alors que l'ANC, le parti au pouvoir depuis 30 ans, a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale lors des dernières élections. Ce qui l'a, vous l'avez compris, et on l'a rappelé sur RFI, obligé à trouver des partenaires. Les sondages disaient donc vrai en France. C'est le Rassemblement national qui s'impose à l'issue du premier tour des élections législatives anticipées, tenues hier. 33% des voix environ pour le parti d'extrême droite, héritier du Front national, selon les estimations. Entre 28 et 29% pour le nouveau Front populaire, issu de l'Union de la gauche. Et le camp présidentiel, lui, subit un camouflet avec 21 à 22% des voix. Alors, quelles sont les réactions ce matin sur le continent? On sait que ce virage sur la scène politique française a été très commenté. Également, le programme anti-immigration du Rassemblement national notamment, ou encore l'interdiction promise pour les binationaux à certains postes stratégiques. À Abidjan, par exemple, la capitale économique ivoirienne, notre correspondante Marine Janin a posé la question.
On a plein d'amis qui sont maintenant en France, qui sont impliqués dans la vie en France. Le RN en tête des suffrages, bon, je pense que ça sera vraiment compliqué. Ce sera difficile pour eux.
Tout n'est pas faussement politique. C'est vrai, j'ai de la famille en France. Ces personnes qui sont là-bas aussi, qui ont adopté la culture française, qui sont mariées avec des Français d'origine et tout, ça montre en fait qu'il y a un brassage culturel.
Moi, j'ai étudié en France. Ma responsable du département, elle est algérienne, en biostatistique, elle est algérienne, épidémie algérienne. Il ne faut pas regarder le côté race, peuple, continent. Il faut regarder le côté intellect, qu'est-ce que les Noirs apportent à la France.
Les Français expriment carrément leur volonté, on ne peut pas les en vouloir. Ils sont libres de vouloir choisir. C'est entre eux. C'est vrai que ça aura forcément un impact sur les Africains qui vivent là-bas, mais s'ils refusent l'immigration, ça doit pousser aussi les dirigeants africains à prendre certaines mesures face à ça. Ça va dans les deux sens, je suis désolé. Mais si on ne peut pas aller là-bas, il ne peut pas venir librement chez nous aussi, n'est-ce pas?
Moi, personnellement, je pense qu'ils ont leur raison. Pour ma part, si moi j'étais à leur place, j'allais aussi avoir le droit ou envie de pouvoir cadrer en quelque sorte notre espace, ne pas laisser n'importe qui venir prendre les décisions. Personnellement, ils doivent avoir leurs limites en tant qu'immigrés. Leur permettre peut-être certains postes et tout, mais les grands postes de décision réservés aux Français.
Voilà, parole d'Abidjan après la victoire annoncée du Rassemblement national hier aux élections législatives en France. Restez bien sûr à l'écoute d'RFI, édition spéciale à suivre tout à l'heure sur ces élections. Et en attendant, on parle de la solidarité à Madagascar. Visite à présent du premier centre d'hébergement d'Antananarive dédié aux sans-abri. Installé à l'ouest de la capitale, le centre AIM, co-géré par la fondation privée Action et la commune urbaine de la capitale. Initiative rare, alors que la pauvreté a explosé sur la grande île en 10 ans. Le centre accueille 148 résidents qui ont tous connu la violence, des difficultés. Et ils ont quelques mois entre ces murs pour se reconstruire, pour scolariser leurs enfants, se soigner, trouver du travail, en somme, pour prendre un nouveau départ. Reportage, Pauline Le Troquier.
Dans cet atelier de couture, Jenny a les mains vissées sur sa machine à coudre. Il y a quelques mois encore, elle vivait seule avec ses 4 enfants dans un abri de fortune sans aucune ressource. Après un an de formation au sein du centre, elle vient de décrocher un emploi en CDI dans une usine de textile.
Le plus important, c'est l'assiduité au cours de couture. J'ai passé des tests pour être embauchée par mon entreprise actuelle qui me paye 260 000 ariars par mois. Et j'ai tout de suite maîtrisé les techniques requises.
Un parcours qui résume à lui seul la philosophie des lieux. Ici, qu'il s'agisse de cuisine ou d'artisanat, chaque résident doit se former. Nirine est responsable adjointe du centre.
C'est vraiment un autre monde par rapport à ce qu'ils vivaient avant le centre. Ils ont ici un toit, des soins médicaux surtout. Ils peuvent manger 3 fois par jour, comme le coutume des Malgaches, mais dans la rue, peut-être une fois, peut-être même pas dans une journée.
Au milieu de la cour, très animée cet après-midi-là, Jeanne Irène n'a pas quitté sa blouse de travail. Tout juste embauchée dans un restaurant partenaire du centre comme femme de ménage, cette mère de 4 enfants, veuve, aborde l'avenir sereinement.
Je n'ai pas peur de sortir du centre. Mon fils a une maladie chronique, la seule chose que je redoute, c'est que ses soins médicaux épuisent mes économies. Mais je me sens prête à affronter la vie dehors.
Face à l'explosion de la pauvreté à Antananarive, les responsables du centre appellent les entreprises partenaires, encore trop peu nombreuses, à jouer leur rôle dans la réinsertion des sans-abri. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Antananarive, la capitale malgache, où il est 7h bientôt 42 minutes. 6h42, ici à Paris. On retrouve bien sûr Arnaud Pontus pour la suite des RFI Matin.
Merci à vous Sébastien Duhamel et à tout à l'heure. RFI Matin, à la une, le succès du Rassemblement National au premier tour des